C'est marrant, il y a une espèce de sentiment d'urgence, de mince, qu'est-ce qu'on va faire, on n'avorte pas, tout ça. Enfin, on. Je dis on parce que normalement, c'est mieux d'en parler à deux, mais en fait, c'est que. Moi, je n'avorte pas. Donc, il y a cette espèce de sentiment d'urgence, et puis qu'après, qui rentre dans une espèce de lenteur, comme ça, de langueur un peu.
Cette période pré-avortement a duré une éternité. Je pense en plus que. Elle a été mal orientée. Enfin, je me souviens que c'était hyper galère, que le parcours était compliqué. Alors que moi, je m'attendais vraiment à ce que, en gros, t'ailles au planning familial et que tu te dises « Bonjour, je voudrais avorter », on me dit « Très bien, il faut attendre une semaine, signer le papier et puis voilà, vous avortez ». En fait, non. Tu dois vraiment te démerder et t'es un peu perdu dans la pampa. Donc, ça a duré un temps fou, finalement, entre le moment où la décision était prise et le moment où elle a pu avorter, il s'est écoulé, je sais pas, presque 3 semaines, peut-être 1 mois. Enfin, dans mon souvenir, c'était très long. Et c'était très désagréable. C'était une période horrible. Et à un moment, on voulait juste que ça soit fait, quoi, qu'on n'en parle plus.
À ce moment-là, j'ai 22 ou 23 ans. C'est une jeune femme américaine qui a 18 ans, qui fait beaucoup plus, qui est jeune fille au père. Et c'est la première nuit qu'on passe ensemble et elle utilise une éponge avec du gel spermicide. Donc une éponge qu'elle met dans le vagin avec du gel spermicide. Et puis on a des relations comme ça, on se retrouve à Berlin, elle m'invite à la retrouver à Berlin. Et en revenant de Berlin, elle m'annonce qu'elle aussi est enceinte. Elle ne veut pas se faire avorter dans un premier temps. Donc elle en parle à ses parents qui sont aux États-Unis et ses parents lui disent... Il faut que tu rentres, tu auras ton enfant avec nous, ton copain peut venir s'il veut, il trouvera du travail et tout. Et moi, je suis terrorisé. Notre relation déjà se délite, on ne fait plus l'amour ensemble, pratiquement. Et c'est la perspective de me retrouver dans le Colorado, d'élever un enfant avec une femme que je n'aime pas et un enfant que je n'ai pas voulu. Je suis complètement terrorisé à cette idée. Et je pense que ce n'est pas du tout une bonne idée qu'elle l'ait, donc je veux la convaincre d'avorter. Et au départ, elle veut le garder. Mais à mon avis, beaucoup sous l'influence de ses parents, qui sont assez conservateurs. Donc il y a quelques jours comme ça, très tendus. Parce que j'envisage pas une seconde, par contre, de ne pas jouer mon rôle. Je sais que je vais aller dans le Colorado, que je dois assumer et que je dois élever cet enfant. Donc j'irai dans le Colorado faire cuire des hamburgers. Alors, j'ai pas une grande carrière à l'époque. Hein, je fais du marketing téléphonique et tout. Ma vie est pas trop en place, mais j'ai pas envie d'aller... On a beaucoup de discussions, des discussions houleuses, on s'engueule. Bon. Et puis un jour, elle vient à mon boulot, à midi, et elle me dit « Bon, je vais avorter ». Et comme elle est jeune fille au pair chez des riches dans le 16e, ils l'ont envoyée à leur médecin qui se propose de réaliser l'avortement dans une clinique privée.
Vers la fin de la parenthèse, elle est allée à la maternité. Elle a voulu que je l'accompagne. Donc j'y suis allé. Elle est dans cette maternité. Un peu avec des semelles de plomb, la mort dans l'âme. Enfin, j'ai dit qu'à un moment donné, j'ai pensé que garder cet enfant était une bonne idée. J'ai rapidement changé mon fusil d'épaule. Je savais qu'on se séparait pour les bonnes raisons et qu'en fait, on ne fait pas naître un enfant dans ces conditions. Clairement, moi, je voulais un bébé pansement qui allait recoller les morceaux de notre relation. En plus, j'avais toujours voulu être un jeune père. Dès que j'avais rencontré Chloé, on avait 19 ou 20 ans, et moi, je voulais qu'on soit parents tout de suite. Je trouvais ça trop cool. Et donc là, on avait 26 ans, ça commençait à s'étioler un peu. Je me disais, ouais, mon fantasme du jeune père est en train de passer à la trappe, c'est peut-être l'occasion. Non, en vrai, assez rapidement, je me suis dit, non, l'avortement, c'est la bonne solution. Et j'ai vachement dédramatisé le truc. J'ai toujours été militant pro-avortement. Donc vraiment, quand on est allé à cette maternité pour avorter, moi, j'étais pas du tout dramatisé. Enfin, j'avais de la compassion pour elle parce que son corps allait subir un traumatisme. J'avais de la compassion pour elle parce qu'elle était triste. J'étais moi-même un peu triste parce qu'on se rapprochait vers la fin de cette parenthèse qui était quand même vraiment joyeuse. C'était une anesthésie générale, je crois, pour l'aspiration. Et donc on m'a dit que ça allait durer assez longtemps, et donc on m'a dit que ça servait à rien que je l'attende à la maternité, qu'elle allait se réveiller vers... On y allait le matin, elle m'a dit qu'elle sera réveillée vers 15-16 heures, donc revenez à ce moment-là. Et je suis revenu la chercher en voiture, alors que la maternité était vraiment pas du tout loin, mais j'avais pas envie qu'elle prenne les transports en commun après ça. Elle non plus d'ailleurs. Bon, elle était très fatiguée. Moi, j'étais vraiment curieux de savoir ce qu'elle ressentait dans son corps, psychologiquement aussi. Et elle a pas voulu me parler. Elle a pas voulu. Et les quelques jours qu'on suivit ont été assez tristes. Moi, j'étais pas dans le drame de l'avortement. Je pense qu'elle, elle y était. Elle l'a pas du tout bien vécu. Et là, avec le recul nécessaire, je sais qu'elle l'a pas bien cicatrisé non plus.
Moi, j'étais surpris. En fait, je trouvais ça injuste, mais j'ai aussi été très admiratif de la façon dont la fille avec qui je suis a géré cette situation. Enfin, je me rappelle que je trouvais que c'était... Enfin, moi, j'aurais été paniqué, en plus... Souvent, les mecs, quand même, c'est pas les plus courageux avec leur propre corps. Alors, un truc qui est au fond de toi, que tu veux plus, faut l'éjecter. Enfin, c'est un... Moi, ça me semble être impossible. Enfin, j'ai l'impression que si ça m'arrive, je meurs d'angoisse, en fait.
Et on va à la clinique privée dans le quartier de la Muette. Et notamment, ce qui se passe, c'est qu'il y a tout un étage de la clinique qui est en travaux. Et c'est à cet étage-là qu'ils ont mis sa chambre. L'intervention a lieu dans la journée. Et donc, elle est dans une chambre. Il y a des travaux et du marteau-piqueur. C'est la seule chambre qui est occupée à cet étage. Et c'est la chambre de la jeune femme qui va avorter. Et moi, je l'ai accompagnée. Et puis, je suis parti dans le quartier. Et puis je reviens et elle est endormie et elle est nue, je crois. Et elle a ses draps, le drap d'hôpital qui est un peu comme fait en papier. Et il y a des travaux monstrueux partout. Donc elle se réveille, elle est très fatiguée et elle veut pas rester dans cette chambre où c'est impossible de se reposer. Et on descend payer et je nous revois dans le bureau. On doit payer l'hospitalisation et l'intervention et la journée. Et c'est, je me rappelle, horriblement cher. Alors... Mais ce qui me choque, c'est pas tant de payer. Je crois qu'on partage. Je sais plus si je paye tout ou si on partage. Mais je crois que l'intervention, ça doit être 1000 francs à l'époque. Et la chambre, 1000 francs. Et moi, ce qui me rend vraiment furax, c'est qu'il lui fasse payer 1000 francs une chambre dans un étage qui est en travaux. Et comme par hasard, j'ai l'impression qu'il cherche à la punir. J'ai l'impression que cette clinique privée, vraiment, n'aime pas l'avortement et cherche à la punir en l'ayant mis dans cette chambre-là, à cet étage-là. Et je me souviens que c'est vraiment... Vraiment une journée épouvantable, tout ce truc-là d'arriver, les travaux, le bruit. On est au métro La Muette, on prend un taxi pour rentrer chez moi. Et il y a beaucoup plus de tendresse avant et après l'avortement. Je crois qu'il n'y en a pas eu depuis le début de notre relation. Et puis quelques jours après, elle va prendre l'avion et rentrer aux États-Unis. Et j'ai plus jamais eu de nouvelles. J'ai envoyé des lettres, une lettre qui est restée sans réponse.
Le rapport à la paternité, il s'exprime pas que à deux, il s'exprime aussi à deux, parce qu'il s'exprime au sein d'un couple, mais il s'exprime aussi de façon très individuelle. Quelque chose d'animal presque qui se réveille. La paternité, c'est quand même une espèce d'instinct aussi. Il se joue de façon irrationnelle des émotions qu'on ne peut pas maîtriser. Est-ce que l'éducation, elle peut venir endiguer ces réactions trop fortes et néfastes? Est-ce qu'elle doit le faire? De quelle manière?
À 30 ans, je rencontre une femme qui a 30 ans, très amoureuse. Ça part vraiment très vite. Et c'est une chouette histoire. On est vraiment très, très amoureux. Surtout, on s'entend bien, on se marre bien. Au bout de quelques semaines, je suis invité à un festival et je lui propose de venir avec moi. C'est la première fois qu'on part un week-end ensemble. Et on se promène et elle me dit... Cette histoire est importante, c'est pas une histoire parisienne, c'est pas juste un plan cul comme ça. Je pressens que notre histoire est importante, qu'elle va durer, qu'il y a un vrai truc entre nous. Et je lui dis, écoute, c'est bizarre, ça fait plaisir de me dire ça, je ressens exactement la même chose, j'osais pas le dire, machin, enfin, tous les deux. Et je me rappelle qu'on se dit à ce moment-là, elle dit, on est grave. et en jouant sur le double sens du mot grave. Et donc on se rencontre en avril et on fait l'amour avril, mai, juin, sans contraception, trois fois par jour. Et en juillet, aux surprises, elle est enceinte. Donc elle me l'apprend par téléphone, je vais la rejoindre chez elle. Et là, je lui dis, qu'est-ce que tu veux faire ? Et elle me dit, je veux pas le garder, je veux avorter. Il s'est joué là, ce soir-là, quelque chose de très étrange, parce qu'on en parle, mais très peu. Et je sais même, soit ce soir-là, soit dans les jours suivants, qu'on se dit, ah ben c'est pas le moment, mais on va faire un enfant ensemble, mais pas celui-là, on va en faire un autre plus tard. L'avortement va avoir lieu, elle va avorter, et on reste ensemble, et quelques mois après, quelques semaines après, elle va emménager chez moi. Quelques mois après, on va prendre un appartement ensemble. On rentre dans une relation de couple stable, monogame, qui va durer plusieurs années. Et 4 ans après le début de notre histoire, elle me quitte et elle me dit « Je te quitte parce que tu ne m'as pas empêché d'avorter. » Pour moi, quand elle dit qu'elle veut avorter, la discussion est close. Mais en fait, c'est un lâche soulagement. Ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, on n'a pas de CDI ni l'un ni l'autre, on n'a pas beaucoup d'argent, on est tous les deux en pige. J'ai l'impression qu'en fait, à ce moment-là, la décision de l'avortement, elle n'obéit pas à notre désir réel à nous, qu'on n'a pas questionné, qu'on n'a pas établi. J'ai l'impression que si cette conversation avait duré une heure, elle n'aurait pas avorté. On aurait gardé cet enfant. Il se trouve d'ailleurs qu'un an après, on avait tous les deux un CDI, on avait plein de fric, on aménageait dans un appartement somptueux. Et il se trouve, mais ça je l'ai su bien plus tard, je l'ai su il y a peu de temps, que 5 ans après, elle va apprendre qu'elle est stérile. C'est-à-dire qu'en fait, c'était cet enfant-là. Elle n'en a jamais eu d'autre. Elle n'en aura pas d'autre. Et elle n'a pas pu en avoir d'autre. Et c'est un grand malheur dans sa vie. C'est une grande détresse pour elle et c'est une grande détresse pour moi qui n'ai pas eu d'enfant non plus. En fait, c'était cet enfant-là qu'on devait avoir. Et c'est celui-là qu'on a avorté alors qu'on avait tout fait pour l'avoir. Dans notre rapport par la suite, on a passé 4 ans ensemble, mais on faisait très peu l'amour. L'avortement a tué le désir entre nous, très rapidement. Il a tué le désir. J'en suis sûr maintenant. C'est-à-dire, elle avait raison, dans le sens que c'est cet avortement qui avait foutu la merde entre nous, alors que nous, on n'en avait pas reparlé. Et c'était pas un tabou, mais on n'en parlait pas si souvent par la suite. Et en fait, c'est ça qui nous a flingués en tant que couple. C'est ça qui a flingué notre intimité et notre désir. Si on s'était dit, bon allez, ok, maintenant on en fait, on serait remis à avoir du désir et à faire l'amour. Il y avait quelque chose qui était lié là-dedans et qu'on a refusé de voir et de comprendre. Après, j'ai eu 40 ans, j'ai été avec des femmes de 40 ans ou plus, et il n'y avait pas de possibilité d'avoir un enfant. Et quand il y a eu la possibilité, j'en ai voulu et il n'y en avait pas, quoi. Mais...
En gros, 6 mois après l'avortement, j'ai décidé de la sortir complètement de ma vie et j'ai plus de nouvelles pendant près de 3 ans. On s'est revus après 3 ans et il y a eu un moment où on a beaucoup bu et ce sujet est revenu sur la table. Enfin, on était vraiment très saouls et on s'est remis à parler du bon vieux temps et... du coup, ensuite, du moins bon vieux temps. Et je lui ai dit un truc du genre, putain, t'imagines que si t'avais pas avorté, là, notre enfant, il aurait 2 ans et demi. Et en disant ça, j'ai vu passer une espèce d'ombre dans son regard. Et elle m'a dit, ce n'est pas drôle du tout. Et là, j'ai dit, bien, on va vomir. si j'avais pas été sensibilisé à ces questions-là, je l'aurais très mal vécu. Soit je l'aurais très mal vécu, soit j'aurais eu un comportement proprement inacceptable, tu vois. D'insister, de lui dire « la conversation va avoir lieu, j'ai mon mot à dire aussi ».
Le fait d'en faire cette revendication politique, c'est compliqué parce que bien sûr que c'est extrêmement juste. Ma compagne et moi, la conclusion qu'on en a tirée, c'est que là pour le coup on s'est fait avoir par la politique, on s'est fait avoir par notre culture politique. C'est-à-dire que vraiment, on l'a fait presque pour se faire plaisir, pour se valoriser politiquement, pour se dire qu'il fallait le faire parce que c'est ça qu'on doit faire.
Après avoir vécu cela, après avoir... accompagné d'aussi proche quelqu'un qui a traversé ça, je ne supporte pas qu'on remette en question le droit à l'avortement. Parfois, je ne supporte pas qu'on remette en question la dédramatisation de l'avortement, au point que j'en viens à dire que le fait que les femmes puissent en ressortir pas indemnes, c'est un son de cloche qui n'a pas voix au chapitre. Je me demande si c'est important de le dire. Je crois qu'il y a des choses plus importantes à dire que ça. Je pense à radicaliser mes positions à bien des endroits qu'il faut certainement pas arrêter de se battre.
XYIVG, signé Camille Jusot. Musique, H4N, Ziga.
Sous les toits de Paris, film de René Clair.
Tiens.
Ville du cinéma.
Oh, c'est bizarre, hein. C'est très très curieux tout ça. Oh, mais tout ça c'est nouveau, hein. La ville d'Épinay comportait un cinéma, c'est vrai, il y avait tout plein de petits commerces, mais c'était vétuste, quoi, c'était que des jardins. Donc c'était vraiment un peu la campagne, quoi, Épinay. Ça n'est plus du tout ça.
On a terminé en 2015 à 80 personnes, donc pour vous dire, je crois qu'on était 700-800, on a terminé à 80. Donc c'était vraiment la belle époque, c'était la belle période dans les années 80-70, je vois ça commencer en 70, jusqu'en 2000. C'était vraiment les plus belles époques.
Et ça a été pour moi la découverte du monde ouvrier.
Je revois des images dans ma tête, des gens avec qui on a travaillé ici, et tous les postes qui étaient attribués à ces personnes-là. Il y avait plein de salles de montage, des pellicules.
Il n'y a personne ici.
Éclair, le son révélateur.
En place tout le monde.
Il ne s'agit pas de comprendre.
Alors, personne ne bouge.
Il s'agit de croire.
Coupé. Oh,
épisode 1, des pellicules, des femmes et des hommes.
On la retourne ? On recommence ?
Oui. Comme toi, je suis doué de mémoire. Je connais l'oubli.
Silence.
Là, il y a un vrai silence.
Action !
Je retrouve pas le couloir des tirages où on était. C'est plus loin.
C'est un peu plus loin, là. Voilà, je pense que c'est un peu plus loin.
Je savais qu'il allait retrouver. Ah, ouais. J'imagine que tout le truc là-bas au fond, c'était le développement.
C'est le développement négatif et le développement positif.
Et voilà. Ouais. Quand on arrivait au départ à l'entrée, il y avait une pointeuse, on pointait. Après, c'était le dédale de couloirs. Une fois que vous les aviez bien, ça allait. Mais au départ, c'était compliqué. C'était un va-et-vient continu. De rentrée, de sortie de voiture, de rentrée, de sortie de gens à pied. Voilà, ça bougeait beaucoup quand même.
Et avec des salles de projection ici, là. Voilà. Et le tirage premier positif ici.
Le tirage premier.
Pas le tirage, pardon. Le montage premier positif ici.
Le montage premier, voilà. Et à l'étage, c'était le négatif.
L'étalonnage.
Oui, l'étalonnage, oui, voilà.
Ce que je disais, c'était la partie noble de l'étalonnage.
Ah ben bien sûr.
C'était les artistes.
Ah ben tout à fait.
Et nous, on était les petites mains.
Oui.
Si je ne m'abuse, vous êtes monteuse de films. C'est-à-dire que vous tripotez la pellicule.
Et nous, on nous appelait les cousettes. Ou les arpètes.
Vous la collez, vous la coupez, vous la rapistolez, etc., etc., etc.
Etc., etc.
Et pourquoi donc, mademoiselle, vous êtes-vous réfugiée dans les coulisses du cinéma?
Non, mais parce qu'en fait, on faisait le petit métier de montage. Le montage par lui-même, c'était pas le montage du film. C'était le montage d'après la monteuse film.
Les pellicules sont collées à l'aide d'un dissolvant spécial.
Donc, on était les arpètes, nous.
Le monde du cinéma était un peu misogyne.
C'était des arpètes qu'on avait énormément besoin. Sans vous aussi, il n'y avait pas de film.
Tout à fait.
Par exemple, le développement, il n'y avait pas de développeuse. C'était que des développeurs. Dans ma carrière, je n'ai connu qu'une seule femme développeuse.
Alors, tenez, vous voulez vous venir là pour les positifs?
Les gars, c'était ceux qui nous livraient les bobines, les étalonneurs, les chefs.
Par contre, les monteuses, c'était pratiquement que des femmes. Il y avait, nous ici, on a eu, je crois, deux monteurs.
On était vraiment entre femmes.
On n'avait pas de vidéo, c'était que de la photochimie, c'était essentiellement que le cinéma. Donc le travail consistait à développer les roches qui arrivaient, à faire du tirage, à faire du montage, à faire de l'étalonnage, à s'occuper du film de A à Z. J'oublie certainement quelques services parce qu'il y en avait tellement, il y avait énormément de techniques et de techniciens. Donc le film arrivait dès les débuts, des roches, des négatifs, et ressortait en boîte pour la distribution des salles dans tous les pays d'Europe, en France comme dans tous les pays d'Europe.
Cette fois, c'est le moment d'ouvrir une deuxième parenthèse et de décrire les sentiments des personnages.
Moi, j'étais dans l'hôtellerie, mon mari aussi, et nous n'avions plus de travail. Et mon oncle, étant un copain du chef du personnel d'Éclair, m'a fait rentrer là, et en tant que j'ai été pendant 2 mois à l'essai, parce que dans Éclair, on embauchait même les personnes qui ne connaissaient pas le métier. On les formait sur le tas, c'est ce qui m'est arrivé.
J'ai commencé à travailler très jeune, à 17 ans, je travaillais dans une scierie, et je commençais à fonder ma famille. Ma femme allait accoucher de mon premier fils. Et comme je ne gagnais pas énormément d'argent là où je travaillais, j'ai demandé à mon père s'il pouvait me faire embaucher dans les labos. Et qui plus est, était juste à côté de chez moi, du domicile. Donc au bout de 6 ans, à 23 ans, j'ai enfin réussi à me faire embaucher au laboratoire Éclair. Ça n'a pas été si simple. Hein. On a beau avoir des connaissances ou du pistonnage, mais c'est pas toujours si simple. Donc 6 ans après, j'ai réussi à intégrer le laboratoire Éclair à 23 ans, en 1983.
Un jour, maman m'a dit, quand il y a un laboratoire, pourquoi on ne demanderait pas, si des fois ils n'auraient pas besoin de quelqu'un. À part le certificat d'études, bon, moi je n'ai pas de diplôme, c'est vrai qu'à l'époque, on pouvait partir facilement de l'école à 14 ans, voilà, sans problème. Et elle est venue voir Monsieur Perugia, qui à l'époque était le responsable du personnel, et puis il a dit, oui, pourquoi pas. Autant avoir fait du secrétariat, bon, c'est une certaine chose, mais là, c'est du secrétariat technique à laboratoire. Je veux dire, il faut connaître les formats de la pellicule, il faut connaître vraiment la technique, quoi, ça s'apprend. Donc c'est vrai qu'au début, j'ai pas mal galéré, hein, je me plantais sans arrêt, j'avais l'impression que j'allais jamais y arriver. Et donc ensuite, je suis partie au service de la production. Alors c'est le travail plus en amont, c'est-à-dire c'est au moment où le tournage du film se fait, donc dans un endroit soit de Paris ou en province. Donc là il y a le négatif qui se tourne, qui est tourné, il est envoyé au laboratoire Éclair. Donc moi mon travail c'était d'avoir les directeurs de production au téléphone, de dire ce film va commencer, d'avoir tous les renseignements techniques, de pouvoir suivre au jour le jour les tournages. de savoir où on devait récupérer le négatif, puisque le négatif arrive souvent la nuit ou à 6 heures le matin.
C'était la crise pétrolière en 73. Je cherchais un job alimentaire, on va dire. Et bon, comme je connaissais un peu le laboratoire, j'ai demandé s'ils embauchaient. On m'a dit on embauche, mais on a besoin que d'un groom. J'avais 20 ans, ça faisait un peu âgé pour un groom. J'ai dit tant pis, je rentre. Et je poussais mes chariots, mes boîtes, et je passais chercher mes sandwichs. Et je suis parti des laboratoires en 2012, février 2012, donc il y a bientôt 10 ans, en tant que chef d'atelier.
Je suis rentré en 70 par l'intermédiaire de mon père qui lui travaillait déjà au laboratoire. Donc j'ai commencé par porter les boîtes au service Super 8 pendant un ou deux ans. Après j'ai fait la même chose mais au service 35.
Puis j'ai été sécheur 16 mm positif, développeur 16 mm positif.
Et après, je suis passé au service développement.
Développeur 35 mm positif.
Pendant quelques années, enfin 2-3 ans peut-être, comme sécheur. La partie développée, je décrochais les bobines qu'on mettait dans les boîtes.
Technicien sensitométrique.
On contrôlait tous les bains. Le matin, il y avait un test de développement à faire. Il fallait contrôler à l'aide d'un densitomètre et donner le OK pour développer les négatifs noirs et blancs.
Monteur premier pot, monteur négatif, assistant ingénieur du son. Étalonneur, roche.
Étalonneur. Après, je suis passé étalonneur au service Super 8. 8
mm, étalonneur 8 mm, étalonneur publicité, responsable du service roche publicité, chef de tirage série, puis chef d'atelier, responsable de la fabrication des copies.
Il y a des personnes au laboratoire éclair qui ont été embauchées, ils voulaient rester un mois, deux mois pendant les vacances. Et en fin de compte, ils sont restés toute leur vie. Ils ont gravi les échelons. La passion, quoi. C'est la passion du cinéma. Mais dans tous les laboratoires, c'était un peu comme ça, hein, à l'époque.
Je m'appelle Max Seban et je suis rentré ici en juin 1967. Et j'en suis ressorti en juin 2010.
On m'avait donné une feuille bleue, je me rappelle encore une feuille bleue. Patrick, ça a à remplir. Tu viens lundi, t'es embauché. Et je suis rentré comme ça.
Pascal Pratt. J'ai 62 ans, j'ai travaillé 33 ans au laboratoire éclair. Je suis rentré à 23 ans en 1983. J'en suis sorti en 2015.
Aujourd'hui, je m'appelle Micheline Langenfeld, mais quand je suis rentrée au laboratoire éclair, au mois de décembre 1966, je m'appelais Micheline Retournée à l'époque. J'avais 17 ans.
Je m'appelle André Bonafosse.
Je me présente, Eddy Naka.
Je m'appelle Madame Sanchez-Odile. Je suis rentrée au laboratoire éclair en 66 et j'ai fini en 2000.
Estival Gérard. Donc je suis rentrée là à 16 ans, puis je suis restée toute ma vie.
C'est ça, et puis le 40 ans de carrière. Mon mari lui a fait 44 ans et moi j'ai fait 40 ans parce que lui il rentre en 1962.
Et donc, je suis rentré dans mon ouvrier et j'ai découvert des gens, d'abord, qui avaient un savoir énorme, une camaraderie, un amour de leur métier, et qui savaient en parler, et qui savaient l'expliquer.
Tu rentres dans la boîte en même temps que quelqu'un, et 20 ans après, on est encore ensemble. C'est une part de ma vie, bien sûr. 42 ans dans la même boîte, c'est que j'aimais bien ça, quand même. Le bruit de la pellicule. Des fois, on déroulait comme ça, il y avait des bacs, on regardait, après on rembobinait à la main. Il y a une technique, on roulait, comme ça.
Je suis tombé dans ce milieu de cinéma et j'ai adoré ça. Et je me suis amusé pendant 40 ans.
Voilà. Moteur.
Ça se perd pas, on va dire.
Ça tourne.
Première.
Partez.
Mon premier contact avec le laboratoire, ça a été une odeur qui a commencé à me piquer le nez, très puissante. Et dès que j'ai mis le pied dans le laboratoire, une vibration du sol, des murs, et un bruit de fond, un roulement de fond, comme des grosses roues qui tournaient, choses comme ça.
Il y a personne ici.
Éclair, le son révélateur.
En place tout le monde.
Il ne s'agit pas de comprendre.
Personne ne bouge.
Il s'agit de croire.
Coupez.
Oh merde.
Épisode 3. Les bruits des machins et des machines.
On la retourne ? On recommence ?
Oui.
Comme toi, je suis douée de mémoire. Je connais l'oubli.
Silence.
Ok. Là, il y a un vrai silence.
Action !
Le développement, il y avait un bruit tout le temps, un bruit permanent, quoi, de roulement de machines. Mais au télécinéma, c'était des bruits électroniques, donc c'était assez carré.
On passait donc près des machines de développement, où là, il y avait un bruit très très important, très intense, toujours ce bruit de roulement, puisque les bobines roulaient, et de gens qui s'interpellaient, parce qu'ils étaient obligés de parler un petit peu fort, à cause du bruit ambiant, et cette odeur piquante, et ce tremblement. Et c'était vraiment un contexte très spécial, mais en semi-obscurité, c'était très très impressionnant.
C'était très, très bruyant. Il y avait même des moments où on était obligé de fermer les portes d'un bureau à l'autre parce qu'il y en avait un qui criait d'un côté, l'autre qui criait de l'autre, etc. Ah oui, c'était très sonore, très, très. Même les portes fermées, on entendait, hein, ça c'est sûr. Et les téléphones, parce que rien que moi, j'avais une, deux, trois, j'avais quatre lignes. Alors j'en avais une, bon, qui était plus interne, quand vraiment quelqu'un voulait vraiment me joindre impérativement, on m'appelait 987, je m'en souviens, le poste sur ce poste-là, pour être sûr que je puisse décrocher et me dire, tiens, il y a une urgence, il y a quelque chose. Donc ça faisait quand même quatre lignes. Donc c'est vrai qu'il y en avait une qui sonnait, il fallait la mettre en latente, reprendre l'autre, refaire, enfin, bon, donc c'était comme ça, sans arrêt, comme ça, sans arrêt.
Le poste de développeur positif. C'était quand même un des postes sur les machines à haute vitesse, très très bruyant. Il fallait qu'on soit à l'écoute de la machine. Elle était déjà bruyante par elle-même, mais quand il se produisait un incident, on l'entendait. Et nous avions un système de sécurité donc, qui permettait, en cas de casse du film, de stopper la machine et avec une alarme sonore. Donc il fallait qu'on soit vraiment attentif à ce... On ne pouvait pas se permettre d'écouter de la musique.
La première chose qu'on faisait, on venait sur la machine et on demandait à l'opérateur qu'est-ce qu'il avait entendu. Parce que c'est lui qui travaillait toute la journée sur la machine et qui avait le bruit de la machine qui fonctionne bien ou la machine qui a un souci. Et il nous disait, je pense que là, par là, il y a un souci. Il y a du bruit, il y a un bruit anormal. Ou ça raye, on ne sait pas pourquoi. Ça a cassé par là, la machine s'est arrêtée. L'oreille, la première, c'était... le gars de la machine, quoi. Le développeur, le tireur, le projectionniste. Après, nous, on investiguait d'une façon plus approfondie.
Et par exemple, quel type de bruit pouvait être suspect ?
Ben, des bruits de roulement, des bruits de pignon, mais c'est un bruit sec, un bruit qui... Clac, 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 clac. Tiens, il y a des trucs qui tournent carré, là. Il fallait se méfier, parce que si un pignon casse, par exemple, sur une développeuse négative, vous aviez tout le négatif qui restait dans le bas. Et il y a des temps bien impartis pour le développement. Hein. Si c'est 2 minutes 30 et pas 2 minutes 50 ou 60 ou 5 minutes, hein. C'est fini, c'est foutu, quoi. Et au début, sur les photomecs, on avait des pignons plastiques, et des fois, ça cassait, hein. Ou alors, des fois, vous aviez de la pellicule qui sortait rayée, parce qu'il y avait des roulements de bloqués, et ça montait, et on commençait à faire du moufle, comme ça. Et ça venait rayer sur les parois, tout ça.
Vous aviez des salles avec des bancs de duplication. C'était des plans, il y avait par exemple 4 rangées avec 3 étagères. Vous aviez que des magnétos. Donc quand on arrivait avec les chariots de cassettes vierges, il fallait charger tous les magnétos. On les mettait clac, clac, clac. Donc une fois que le film était fini, tac, on revenait avec un chariot, on déchargeait tout. Ça partait en salle de vérif. là-dessus, vous aviez des bancs de 3 ou 4 étages avec des magnétos. Donc on prenait la cassette, on la chargeait dedans. Hop, 1, 2, 3, 4. On mettait en route le début. On passait sur le premier magnéto, le deuxième magnéto, une quinzaine des fois. On visait quoi 2-3 minutes, le premier magnéto. Hop, après on mettait en accéléré pour arriver au milieu. Et ainsi de suite, on vérifiait chaque cassette. Et on validait la cassette qui avait le moins de défauts. Ce qui nous paraissait le plus potable, le plus vendable, on les mettait là, et les autres, ça allait sur un chariot, hop, à effacer. On avait un effaceur, on passait les VHS dans un effaceur pour les récupérer.
Ce service où j'ai commencé, sur le site du montage positif, qui était quand même un service assez important, où il y avait une quinzaine de personnes à une table de montage, chacune, avec tout ce qu'il y avait autour, les boîtes, les fameuses boîtes, quand c'était fini, ou même quand on nous les apportait, c'était le bruit qu'on entendait facilement. Ces grosses poubelles en bois que l'on glissait et que l'on tirait pour remettre bien au même niveau. Certaines poulies pour enrouler nos films qui, des fois, couinaient. Et puis bon, on avait quand même le droit de parler, mais il fallait quand même rester très concentré dans ce qu'on faisait.
Le bruit de roulement nous berçait, donc on avait tendance à, comme on avait commencé à 5h du matin, arrivé vers les 8h, 9h, on avait tendance à somnoler un petit peu. Et chaque fin de bobine, à l'époque c'était toutes les 10 minutes quand j'étais développeur, une sonnette importante qui signalait qu'il fallait accrocher la bobine d'après. Et d'un seul coup, cette sonnette sonnait, et là, il fallait raccrocher tout de suite. On avait un temps très limité pour accrocher la bobine. Ça nous surprenait à chaque fois. Il m'est arrivé d'en rêver la nuit, de croire entendre la sonnette sonner, de me réveiller en sursaut en me disant « faut que je mette la bobine ». On était vraiment à fond dedans, jour et nuit.
Je sais pas si on peut sortir. Bon, là-bas, en bas, c'est la forêt verte. Hein,
c'est quoi en bas?
En bas, là. C'est toutes les machines, les tuyaux, les pompes. Vous avez déjà vu ça?
Ouais, ouais, ouais.
C'est horrible, hein.
Pourquoi horrible? Pourquoi horrible?
Parce que c'est toute une vie là-dedans.
Ah non, ici, tu n'as pas de son. Tu n'as que l'image. De toute façon, tu n'as pas besoin du son, puisque de toute façon, c'est de l'étalonnage. Donc, généralement, on avait une petite chaîne IFI où on pouvait apporter des CD, en fait. Sinon, tu étais 7 heures dans le silence, et donc, c'était bien d'avoir un peu de musique. C'est que quand tu présentes, en fait, que ton film, il est image et son. Quand tu le reprends, il n'y a que l'image, il n'y a pas de son, il n'y a rien du tout. Hein.
Le film qui m'a marqué le plus, c'est Emmanuel. Nous étions en plein dans l'explosion des films un petit peu X. On a fait les Emmanuels, hein, avec Sylvain Christel. On a fait aussi Les 11 000 Verges, L'arrière-train sifflera trois fois. Et donc, on parlait beaucoup de ces films. Et alors, on avait un phénomène, c'est la disparition des bobines positives. C'est-à-dire qu'une bobine partait en développement sur la machine, mais ne sortait jamais au bout de machine, on la retrouvait jamais. Parce qu'en vérité, les gens découpaient les images du film pour les mettre en diapositive pour pouvoir les projeter chez eux.
Des fois, quand on passait dans les couloirs, même si les salles de projection étaient fermées, on entendait quand même, ça faisait partie ça faisait partie du laboratoire. Voilà.
Oui, on entendait le son des films dans les couloirs du labo.
Oui.
Ouais. De plusieurs films, d'ailleurs. Mmh.
Quand on passait à l'étalonnage, sur le palier, on entendait des fois les sons des films. La cabine était ouverte. Et je me rappelle d'un film, c'était Pink Floyd à Pompéi. Et ça, je m'en rappelle encore, parce que le projectionniste, des fois, il était tout seul, il se repassait la copie. Et puis, lui, il aimait bien ça, et puis il mettait le son à fond dans la cabine, quoi. Et je m'en rappelle encore, on entendait le son sur le palier. Quelque part, ça m'a marqué, entre guillemets.
Il y a eu une très grosse évolution au niveau du son, c'est-à-dire que les machines sont devenues de plus en plus rapides, mais de plus en plus bruyantes. Au début de marche arrière, sur les machines de développement ou de tirage, on ne parlait pas de bouchons d'oreille. Par la suite, c'est devenu pratiquement en développement positif, avec les machines à haute vitesse, les machines Michelson, une obligation, bouchons d'oreille et protection. On est passé de quelque chose où les bruits étaient des bruits un peu graves, mais qui ronronnaient comme un ronronnement, à des bruits beaucoup plus techniques, avec des cliquetis, des coups sourds, des gongs, rien que les sonnettes. On est passé d'une sonnette à vibration classique à une sonnette électronique. Donc c'est un son complètement différent. Tous ces sons-là se sont transformés en 40 ans de carrière. Donc les sons se sont vraiment beaucoup modifiés.
Lexique des laboratoires éclair.
Alors, Épinay-sur-Seine, ville du cinéma.
Laboratoire éclair.
Le studio éclair, c'est un endroit mythique de la ville.
Anticalorique. Filtre en verre, arrêtant les rayons infrarouges.
Mais je suis jamais rentré dedans.
Buse. Partie d'une essuyeuse.
On était soudés.
B.
On était une famille.
Bobine. Décès. Brillant. Côté support d'une pellicule. Badge. Carte passe. Blanc. Éclairé par la lumière du jour.
Je commandais la pellicule, les boîtes, les noyaux, aussi bien les fournitures de bureau.
Cadrage. Voilà. Bordure d'une image. Encadrement d'une image sur le film.
Développement.
Développeur. Ouvrier travaillant sur une développeuse. Il n'y a pas de femmes qui font ce métier.
Enveloppe permet de révéler l'image argentique.
Inactinique.
Enveloppe.
Inter négatif.
Le sachet qui contient la pellicule.
Kinescopage.
Son analogique.
Son optique.
Partie d'une pellicule en polyester sur laquelle on couche la gélatine.
Méthode additive. Méthode soustraction. Système de codage anti-pellicule.
Noir.
Partie obscure. Du laboratoire.
L'enseigne, c'est quelque chose qui est mondialement connu. Ça, c'est une certitude. Mais qu'est-ce que vous faisiez à l'intérieur ? Non, les gens ne savent pas, en fait.
À l'époque, nous étions 600 à 620 personnes.
Est-ce que les gens savent que des dizaines et des dizaines de personnes ont travaillé sur le film pour qu'il sorte, des tireurs, des développeurs, des préparateurs de bains, des étalonneurs, des gens à la Sensito ? Qu'est-ce que c'est qu'une photomec ? Qu'est-ce que c'est qu'une BHP ? Qu'est-ce que c'est qu'une amorce de 41 pieds 0,5 ? Qu'est-ce que c'est qu'une Michelson ?
C'est un positif doux servant à fabriquer l'inter-négatif.
En éternisant le présent, n'est-ce pas toute l'histoire que le cinéma imprime sur la pellicule fragile ?
Density. Étalonneur. Personne qui corrige les lumières du film.
À l'époque, c'était les bobines de film, etc. Après, le numérique est arrivé. Le laboratoire a périclité en quelques années.
Parmi tous les bienfaits que nous a apporté la géniale invention de Louis Lumière, le plus précieux est celui qui nous permet de léguer aux générations futures l'image vivante de ceux dont l'œuvre féconde honore notre pays.
Le cinéma, c'est un monde du rêve. Pouvoir y pénétrer, c'est une chance exceptionnelle.
souvenirs d'enfance. En France, violence, manque d'indulgence par les souvenirs que j'ai. Un café, un léger, on les mélange et sépare une petite enfance. Tout comme vous, je connais ce sentiment de solitude et d'isolement. Belle île en mer, Marie Galante, Savasso, Loisa comme pour ses bourses là. Bruxelles, c'est le qui vous sépare.
June, another sleepy, dusty Delta day. I was out chopping cotton and my brother was baling hay. And at dinner time we stopped and walked back to the house to eat. And Mama hollered at the back door, y'all remember to wipe your feet. And then she said, I got some news this morning from Choctaw Ridge. Today, Billy Joe McAllister jumped off the Tallahatchie Bridge. And Papa said to Mama as he passed around the black-eyed peas, well, Billy Joe never had a lick of sense. Pass the biscuits, please. There's 5 more acres in the lower 40 I got to plow. And Mama said it was a shame about Billy Joe anyhow. Seems like nothing ever comes to no good up on Choctaw Ridge. And now Billy Joe McAllister's jumped off the Tallahatchie Bridge. Brother said he recollected when he and Tom and Billy Joe put a frog down my back at the Carroll County Picture Show. And wasn't I talking to him after church last Sunday night? I'll have another piece of apple pie. You know it don't seem right. I saw him at the sawmill yesterday on Choctaw Ridge. And now you tell me Billy Joe's jumped off the Tallahatchie Bridge. Mama said to me, child, what's happened to your appetite? I've been cooking all morning and you haven't touched a single bite. That nice young preacher, Brother Taylor, dropped by today. Said he'd be pleased to have dinner on Sunday. Oh, by the way, he said he saw a girl that looked a lot like you up on Choctaw Ridge. And she and Billy Joe was throwing something off the Tallahatchie Bridge. A year has come and gone since we heard the news about Billy Joe. Brother married Becky Thompson, they bought a store in Tupelo. There was a virus going round, Papa caught it and he died last spring. Now mama doesn't seem to want to do much of anything. And me, I spend a lot of time picking flowers up on Choctaw Ridge and drop them into the muddy water off the Tallahatchie Bridge.
Cookie man, cookie man, cookie, give me that pizza. No, I'm a pasta. capello que chaponzo, cheio e manamado, e o caso sasso, o caso sasso, cabelo que chaponzo, cheio e manamado, calunga já broxou.
Show.